Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. 55 000 foyers toujours privés d'électricité dans le sud-ouest où la tempête Amélie a soufflé fort la nuit dernière. Dans le sud-est, les fortes pluies ont provoqué des inondations et coulées de boue. Une femme de 70 ans est portée disparue à Nice. Des progrès significatifs en français et en mathématiques, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, se félicite des premières évaluations en CP et CE1, notamment les progrès enregistrés dans les zones d'éducation prioritaire, ce que conteste le SNUIPP, principal syndicat du primaire, qui dénonce une communication gouvernementale. Dans ce journal également, 33 blessés, dont 4 graves dans l'accident d'un car Flixbus sur l'autoroute A1. La mort à 96 ans de Louis Laringue, le fondateur du SAMU, et puis... Et puis la mort aussi de Marie Laforêt, chanteuse et comédienne très populaire dans les années 70-80. Elle avait 80 ans. On n'oublie pas le sport, la victoire sans surprise de Djokovic au Master 1000 de Paris, c'est la 5e fois. Paris qui fait la grimace et Marseille qui retrouve le sourire en Ligue 1. Et puis retour bien sûr sur la Coupe du Monde de rugby, le journal des sports dans un instant avec Clément Comte.
France Inter.
Pour commencer, de la colère et du dégoût à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Après la soirée de violence d'hier, il ne reste rien de l'école de cirque, bâtiment culturel emblématique de la commune, inauguré l'année dernière et incendié par des vandales. Le préfet des Yvelines et la maire de Chanteloup, Catherine Arnoux, dénonce un acte délibéré contre la politique de rénovation urbaine engagée par les autorités et qui gêne les trafics souterrains. Avant l'incendie déclaré vers 22h30, des groupes de jeunes s'en étaient pris aux policiers qui disent avoir été tiré dans un guet-apens, ce qui semble d'ailleurs devenir une habitude. Reportage à Chanteloup, Fabien Randrian Arisoa.
Provocation avec les patrouilles de police la journée et affrontements cagoulés dans la nuit. Voilà quelques semaines que Chanteloup vit à ce rythme tendu. Pour Oussama, habitant du quartier, l'incendie du chapiteau n'est pas un incident isolé.
De toute façon, on sent qu'il y a de la tension, quand on sent que le soir ça va... c'est prêt à repartir. Je veux dire, hier, il n'y avait pas de doute, on sentait que ça allait repartir. Des occasions comme ça et les petits qui sortent. Un peu cagoulés, des bâtons, des pierres, des feux d'artifice. Ils vont affronter la police.
Un incendie pour attirer les forces de l'ordre et une pluie de mortiers pour les recevoir. Le phénomène se multiplie ces dernières semaines. William Blanchet est secrétaire départemental des Yvelines du syndicat SGP Police.
Depuis le début du mois d'octobre, nous avons différentes interventions suite à des guet-apens sur Mantes-la-Jolie, sur Sartrouville, sur les Mureaux, sur Trappes, là maintenant à Chanteloup.
Mais Chanteloup a une particularité, la rénovation urbaine qui entraîne la démolition de barres d'immeubles et gêne le trafic de stupéfiants. Catherine Arnoux est la maire de la ville.
Alors moi je veux bien tout ce qu'on veut, c'est vrai qu'il y a un immeuble qui est à un endroit très stratégique. Mais nous avons vécu quand même un programme de rénovation urbaine numéro 1 où il y a eu 347 démolitions. L'ensemble de la cité a été concerné. Je n'ai jamais été confrontée à des violences comme ça.
Pour prouver sa détermination, Catherine Arnoux s'est engagée à reconstruire le chapiteau en bois où il ne reste plus aujourd'hui qu'un tas de cendres.
Deux personnes, dont un mineur de 17 ans, ont été interpellées et placées en garde à vue. À Béziers, l'adolescent de 15 ans, interpellé vendredi après les violences de la soirée d'Halloween, a lui été présenté à un juge pour sa mise en examen. L'ado qui jetait des pierres sur les policiers a reconnu avoir mis le feu à une voiture stationnée près de l'école, celle-là même qui avait été incendiée jeudi soir. Près de 300 enfants ne pourront pas d'ailleurs demain faire leur rentrée. Ils sont accueillis la semaine prochaine dans la maison de quartier qui sera réaménagé à cet effet. Des progrès significatifs pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Les premières évaluations de la rentrée 2019 en CP et CE1 montrent une nette augmentation de la maîtrise des savoirs fondamentaux par les enfants, en français comme en mathématiques, à quelques exceptions près, sur la compréhension des mots ou le calcul mental notamment, mais globalement, sur la fluidité de lecture et la capacité de calcul, pour lui, on peut dire que le niveau des élèves remonte. Alors est-ce si sûr ? Quelle confiance accorder à ces évaluations qui sont très controversées ? Françoise Popineau, la secrétaire générale du SNUIPP, le premier syndicat du primaire, a sa petite idée là-dessus, elle l'a dit à Sonia Princey.
Il faut savoir qu'ils sont réalisés dans les classes de manière différente. Chaque enseignant peut être amené à le réaliser tantôt le matin, tantôt l'après-midi, en laissant plus ou moins de temps, en expliquant davantage ou pas les consignes. Donc, il faut se méfier de ce type d'évaluation qui ne peut pas pas avoir de valeur scientifique. Le deuxième élément, c'est que cela n'apprend rien aux enseignants, puisque les enseignants eux-mêmes font leurs propres évaluations. Ce qu'on constate surtout, c'est que ces évaluations qui devaient être, et on nous l'a assez répété, au service des enseignants et au service des élèves, sont finalement de nouveau au service de la communication ministérielle. Il s'agirait en somme d'une auto-évaluation du ministre sur la politique qu'il met en œuvre. On se doutait bien qu'en s'auto-évaluant, le ministre ne prenait pas le risque de dire que ça ne marchait pas. Donc il va falloir d'autres éclairages pour nous réjouir davantage, même si on peut toujours se réjouir des progrès faits par les élèves.
Dans ce même entretien au JDD, Jean-Michel Blanquer annonce par ailleurs des renforts pour les directeurs d'école. Dès la rentrée de janvier, ils pourront être secondés dans leurs tâches quotidiennes par des volontaires du service civique. Vers un retour à la normale à la SNCF, après les perturbations de ces derniers jours sur l'axe atlantique, la compagnie nationale annonce pour demain 9 TGV sur 10 sur les lignes Paris-Bretagne et Paris-Bordeaux. En attendant, la grève reconductible du 5 décembre est toujours d'actualité. L'Assemblée des Gilets jaunes, réunie à Montpellier ce week-end, appelle d'ailleurs à se joindre au mouvement, alors que le nouveau patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, espère pouvoir renouer le fil du dialogue. Il le dit au JDD, il rencontrera au plus vite les quatre principaux syndicats, dont acte pour le syndicat UNSA Ferroviaire, le premier à réagir. Il se dit satisfait que le malaise ait été compris, en ajoutant toutefois que la confiance, ça se construit. En politique, les déclarations du week-end, Jean-Luc Mélenchon sur France Inter, il accuse Emmanuel Macron de mettre de l'huile sur le feu à propos des musulmans et du voile, en appelant à une société de vigilance, dit-il. Le président montre du doigt la culpabilité des musulmans. Et puis Ségolène Royal, elle, dénonce des réformes tous azimuts dont les Français ne comprennent plus la cohérence. La réforme des retraites, par exemple, contre laquelle, dit-elle, les Français pourraient se révolter.
France Inter, Yves Decamp.
Peut-être une victime des intempéries à Nice. Une femme de 70 ans est portée disparue ce soir après un glissement de terrain la nuit dernière. Une coulée de boue provoquée par les pluies diluviennes qui se sont prolongées d'ailleurs jusqu'à midi. Emmanuel Gravet, vous êtes sur place. Les recherches se poursuivent bien sûr.
Oui, c'est maintenant à la lumière des projecteurs que les 60 secouristes et leurs chiens déblaient à la main les tonnes et les tonnes de terre qui ont enseveli cette terrasse. Il faut se représenter un espace étroit de 20-30 mètres carrés à l'arrière de la maison. Impossible d'acheminer des moyens mécaniques. On est dans des rues très étroites, tortueuses, dans un vallon de Nice. Les maisons sont littéralement construites les unes au-dessus des autres et les pluies diluviennes, vous l'avez dit, qui se sont abattues la nuit dernière et ce matin ont fragilisé tout le flanc de la colline. C'est littéralement un mur de terre qui s'est affaissé sur cette terrasse, un mur de terre de plusieurs mètres de haut que les secouristes doivent donc creuser pour essayer de porter secours à cette femme de 70 ans dont la disparition a été signalée vers midi.
Emmanuel Grabert, à Nice, de nombreuses routes et habitations ont été inondées dans les Alpes-Maritimes comme dans les Bouches-du-Rhône à Marseille et tout autour de l'étang de Berre. Dans le sud-ouest, c'est la tempête Amélie qui a provoqué de nombreuses chutes d'arbres et objets divers. Un motard a été gravement blessé par la chute d'un câble sur un pont de Bordeaux. Des rafales à plus de 160 km/h ont été enregistrées au Cap Ferret. Ce soir, 55 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Et puis rien à voir a priori avec les intempéries. Un accident de car ce dimanche sur l'autoroute A1 a fait 33 blessés, dont 4 graves. Un car Flixbus qui assurait la liaison Paris-Londres. Il s'est couché sur le côté après une sortie de route pour une raison qui reste à déterminer. À l'étranger, c'est dans un an, presque jour pour jour, le 4 novembre prochain précisément, l'élection du 46e président des États-Unis qui pourrait s'appeler Donald Trump ou pas. On se souvient que l'actuel locataire de la Maison-Blanche avait été devancé en nombre de voix par son adversaire démocrate Hillary Clinton, mais qu'il l'avait emporté dans un état clé de l'élection, un état pivot, l'Ohio, faisant basculer le résultat. Le système électoral américain est ainsi fait, d'où l'importance pour les démocrates de reconquérir les électeurs de l'Ohio, où s'est rendu Farida Noir, dans la petite localité de Westerville, plus précisément. Reportage.
Trip and Drive, dans cette petite banlieue résidentielle, Aline Wagner se prépare à partir en campagne.
Je suis candidate aux élections municipales. Je suis démocrate, ce qui fait de moi une exception ici. Et là, je vais aller parler aux électeurs.
En 2016, elle faisait déjà du porte-à-porte pour soutenir Hillary Clinton. Jim, son voisin et républicain, se retraitait à voter Trump il y a 3 ans.
Je suis très déçu. Il ne se comporte pas comme un président. Il faut être respectueux et digne. Il n'est rien de tout ça. En tout cas, je ne revoterai pas pour Trump, ça c'est sûr.
Un peu plus loin chez Steven, républicain lui aussi.
Ça m'embarrasse qu'il soit mon président. Quand vous êtes élu à cette fonction, vous avez une réputation à tenir. Mais lui, il ne fait pas ça. Je ne suis pas fan.
Injurieux, provocateur. Pour Aline, le comportement de Donald Trump joue en la faveur des démocrates.
Ce modèle qu'il donne à nos enfants, à notre nation, ce n'est pas ce que nous voulons. Alors oui, il nous facilite la tâche, mais rien n'est garanti. Il faut que les militants démocrates se motivent pour qu'on le batte. Et c'est beaucoup de travail dans un État comme l'Ohio.
Car ce swing state, cet État pivot, peut voter autant démocrates que républicains.
On a beaucoup de swing voters, c'est un challenge. Donc le candidat démocrate qui sera choisi devra captiver les électeurs. C'est ce qui a fait la différence pour Barack Obama et ça va être beaucoup de boulot.
Le candidat démocrate à la présidentielle américaine sera désigné en juillet prochain.
Au Mali, un nouvel attentat contre l'armée. 2 soldats ont été tués, 6 autres blessés dans le centre du pays par l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule. 2 morts qui s'ajoutent aux 49 tués de jeudi soir et à la mort du soldat français Ronan Pointeau. En Irak, des routes coupées, les écoles et administrations fermées ce dimanche. Après un mois de contestation, la mobilisation ne faiblit pas contre le gouvernement dont les manifestants demandent la démission. La contestation qui a fait officiellement plus de 250 morts a pris désormais un tour plus festif au Liban. Même contestation contre le régime. La démission du gouvernement de Saad Hariri mardi n'y a rien changé. La place des martyrs à Beyrouth est ce soir noire de monde. En France, il était professeur de médecine et c'est à lui qu'on doit en 68 la création du SAMU. Louis Laringue est mort ce matin à Toulouse. Il avait 96 ans. La ministre de la Santé Agnès Buzyn notamment lui rend hommage sur Twitter en saluant son rôle dans notre médecine d'urgence qui lui doit beaucoup. On connaît effectivement le rôle majeur du SAMU dans notre système de santé. Et puis, elle était une chanteuse très en vogue dans les années 60 à 80. Beaucoup de ses chansons étaient sur toutes les lèvres. Marie Laforêt est morte ce matin en Suisse. Elle était aussi une comédienne alternant les films de genre et les films plus grand public. Elle avait 80 ans. Une carrière de briques et de broc, comme le disait elle-même Alexandra Acoun.
Une carrière qui débute en 1959, presque sur un malentendu, un concours de talent auquel la jeune fille originaire de Gironde accompagne sa sœur aînée. C'est finalement elle qui décroche le premier prix. L'année d'après, le public la découvre aux côtés d'Alain Delon et Maurice René. Maïté Nadoumena, qui est rebaptisée Marie Laforêt, c'est Plein soleil, bien sûr, de René Clément.
Je n'accepterai pas le quart de ce qu'il accepte.
Mais ce qui m'amuse, c'est précisément de voir jusqu'où il ira.
1961, elle tourne La fille aux yeux d'or, dont le titre devient son surnom. Elle, dont les yeux sont pourtant gris vert, suit une trentaine de films sous la direction de Lautner, Molinaro, Chabrol, Mocky, des films où son côté non conventionnel fait merveille, comme dans Les Morphalous d'Henri Verneuil en 1984.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, elle a dû pisser sur la ligne à haute tension.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Mais sa vraie passion, c'est la musique. Son premier 45 tours sort en 1963. Le succès est immédiat. Les tubes s'enchaînent. Installée en Suisse par amour, où elle ouvre une galerie d'art, devient commissaire-priseur, Marie Laforêt, au tournant des années 2000, se met à l'écriture, monte sur les planches aussi. Son interprétation de Maria Callas dans Masterclass lui vaut une nomination au Molière. La chanson, elle y revient en 2005, une ultime série de concerts à guichet fermé.
Cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour?
Voilà, 35 films et 35 millions d'albums vendus pour la fille aux yeux d'or morte ce matin en Suisse. Elle avait 80 ans. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
En cette fin d'après-midi, les vagues de pluie qui ont survolé le pays tendent à s'estomper, de même que les orages et les fortes précipitations sur la Corse, et le vent va retrouver des valeurs plus raisonnables, sauf sur le Cap Corse, où les rafales pourront approcher les 100 km/h en cours de nuit. Et pour cette journée de lundi, le parapluie va rester utile sur pratiquement l'ensemble du pays en matinée, en dehors du bassin méditerranéen. L'après-midi, une zone de pluie plus marquée va résister au sud d'un axe Gironde-Bourbonnais-Franche-Comté, apportant pas mal de neige sur les Alpes à partir de 2000 mètres. Plus au nord, installation d'un régime de temps variable à la mi-journée, avec tantôt des ondées et des coups de tonnerre. Le vent sera également de la partie, jusqu'à 70 km à l'heure dans les terres, 90 en bord de mer, le tout dans des températures pratiquement identiques à celles d'hier.
Et ce soir, attention aux inondations en Charente-Maritime, notamment département placé en vigilance orange. Sur la route, des retours de vacances ou de week-end difficiles peut-être, Marius Delaunay?
Ouais, des bouchons notamment qui s'étirent sur l'axe Angers-Paris. La circulation est particulièrement compliquée sur la 11, notamment après la sortie de la Ferté-Bernard. Vous comptez donc plusieurs dizaines de minutes de ralentissement. Autre point chaud du trafic sur la 1, lorsque vous rentrez sur Paris, ça roule évidemment au ralenti sur une dizaine de kilomètres jusqu'à l'échangeur de Compiègne-Nord. Le trafic est également chargé sur la 13 dans le sens des retours vers Paris. Ça coince par exemple au niveau de Caen ou encore de Rouen. Sur la 6 également, des difficultés à vous partager sur le périphérique lyonnais, notamment dans le sens Lyon-Marseille, sens nord-sud, avec les voies qui sont fortement impactées et donc un trafic qui est fortement ralenti. Et puis en région parisienne, plusieurs difficultés à vous signaler, notamment en direction de Paris après la sortie 10 d'Ourdan, les bouchons qui commencent clairement à s'accumuler. Hein, le temps de parcours est allongé de 9 minutes pour faire par exemple Saint-Arnoult-les-Ulysses.
Marius Delaunay, OPC Mobilité de Radio France, 19h16, le sport. Le journal des sports, c'est avec vous, Clément Comte, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Alors ce n'est pas vraiment une surprise, mais Novak Djokovic a remporté un nouveau trophée au Masters 1000 de Paris-Bercy.
C'est le cinquième déjà à Paris pour le Serbe. Victoire tout à l'heure en finale face au Canadien Denis Shapovalov, 6-3, 6-4. Novak Djokovic, facile, Fabrice Abgral.
C'est un Novak Djokovic expéditif qui s'est adjugé son cinquième titre à Bercy. Il ne lui a fallu qu'une heure et cinq minutes pour se débarrasser sans ménagement du jeune Canadien Denis Shapovalov, signant là la finale la plus rapide de l'histoire du tournoi. Novak Djokovic, sans trembler, a dominé la rencontre de bout en bout. Le Serbe, solide et percutant, a imposé son tennis, mettant une pression constante sur Denis Shapovalov, âgé de 20 ans et 28e mondial, qui disputait qui plus est sa première finale dans un tournoi Masters 1000. Le Canadien, trop souvent fébrile, a été incapable de suivre le rythme du numéro 1 mondial. Shapovalov n'a jamais réussi à s'organiser et installer son tennis tout en puissance. Shapovalov a bien essayé, mais il était systématiquement contré par un Djokovic totalement maître de la situation, comme il l'a été durant tout le tournoi, qu'il termine finalement sans avoir perdu le moindre set. À 32 ans, le Serbe est le joueur le plus âgé à s'imposer à Bercy. C'est le Russe Marat Safin, triple vainqueur du tournoi, qui a remis le trophée à Novak Djokovic, le 77e de sa carrière, le 34e en Masters 1000. Il n'est plus désormais qu'à un titre du record de Rafael Nadal.
Les précisions de Fabrice Abgral depuis Bercy, la victoire de Novak Djokovic tout à l'heure en a impressionné plus d'un, notamment le directeur du tournoi, Guy Forget.
Il a fait cavalier seul aujourd'hui, il était tellement au-dessus de son adversaire qu'il se dégage une impression de facilité. Je crois qu'après Roger Federer, peut-être que Novak Djokovic est le joueur qui a les meilleures statistiques en salle aujourd'hui. Il est extrêmement complet, c'est un des meilleurs athlètes du circuit, le meilleur retour du monde. Il y a peu de sportifs qui peuvent se targuer d'avoir gagné une épreuve de cette importance 5 fois. C'est fait pour lui maintenant, il l'a fait en plus avec la manière et il prouve justement à la nouvelle génération pourquoi il est encore le numéro 1 mondial aujourd'hui.
Guy Forget sur cette finale tout à l'heure, une finale assez inattendue. Novak Djokovic, ça ce n'est pas vraiment une surprise. En face, on attendait Rafael Nadal, mais l'Espagnol s'est blessé hier, juste avant sa demi-finale. Pas de blessure pour eux, tout va bien. Et ils l'ont prouvé tout à l'heure. Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert ont remporté leur finale en double, toujours dans ce Masters de Paris-Bercy. Une victoire contre les Russes, Kachanov-Rublev, en 2-7, 6-4, 6-1. Un rêve qui se réalise pour Nicolas Mahut.
C'est un sentiment qui est incroyable parce que c'est ce que je disais, quand t'es petit, tu le vois à la télé, t'as la chance de venir parfois dans les tribunes, tu sens cette atmosphère qui est différente, parce qu'à Bercy, l'ambiance dans les tribunes, elle est différente qu'à Roland-Garros, et tu grandis en te disant, tu rêves de gagner le tournoi, quoi. Mais tu te dis, si je le fais pas en simple, essaye de le faire en double. Et une première défaite en finale, une deuxième défaite en finale il y a 3 ans, et tu te dis, peut-être que ça va t'échapper, tu sais jamais quand tu rejoues une finale. Et grâce à Pierruc, on a réussi à gagner ce tournoi-là, et C'est un moment qui est très important dans ma carrière.
Les deux Français Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert ont gagné quasiment tous les plus grands titres en double, les 4 grands chelems, 7 des 9 tournois Masters 1000, il leur manque Shanghai et Madrid maintenant, il manque aussi le Masters de Londres, ils y seront d'ailleurs la semaine prochaine pour pourquoi pas cocher cette case à leur palmarès.
Allez, on quitte Bercy et le tennis pour les stades de foot.
Avec la Ligue 1 et le gros match ce soir, Yves, très attendu, Saint-Etienne-Monaco. Deux clubs qui sont plutôt dans le bas du classement, c'est vrai. Bonsoir Rodolphe Montagnier.
Bonsoir Clément.
Vous êtes déjà Geoffroy Guichard. Rodolphe, les deux équipes vont mieux en championnat. C'est une rencontre qui peut être très serrée ce soir.
Effectivement, qui vont un petit peu mieux après un début de saison délicat d'un côté comme de l'autre. On a un peu tutoyé la zone de relégation, d'abord pour l'AS Saint-Etienne également, mais également l'AS Monaco. On s'est fait un petit peu peur. On a un peu redressé les choses depuis un bon mois. On reste d'ailleurs invaincu d'un côté comme de l'autre depuis, par exemple, 5 matchs pour l'AS Monaco, 4 du côté de l'AS Saint-Etienne. Un peu plus de victoires du côté de l'AS Monaco, un peu plus de matchs nuls du côté de l'AS Saint-Etienne. Mais on voit que ce sont deux équipes qui sont en forme de renouveau. Néanmoins, c'est le 14e qui reçoit le 13e ce soir. Ça reste un match de bas de classement, un match dont on attend beaucoup parce que c'est une affiche qui permettrait aux gagnants ce soir de remonter, de basculer dans la première moitié de classement et surtout de se rapprocher du quatuor de tête. Un match important donc, mais surtout pour la suite de la saison avec des perspectives pour la Saint-Etienne en Coupe Ligue Europa, plus exactement la semaine prochaine. Une grosse semaine très chargée pour la Saint-Etienne qui devra faire face ce soir à plusieurs absences, notamment celle de Yanem Villa et de Wabi Kazri, son buteur tunisien. Mais il y a aussi des absents du côté de l'AS Monaco et notamment Islam Slimani, le buteur de l'AS Monaco, même si Wissam Ben Yedder, lui, sera aligné à la pointe par Léonard Jardim.
Merci Rodolphe Montagnier. On le disait, un match serré du côté stéphanois. On s'attend même à une dure confrontation. Le coach des Verts, Claude Puel.
C'est une équipe qui a repris confiance. Ça, c'est la première des choses. C'est venu petit à petit, bien sûr, avec les résultats. Et puis là, ils sont dans une certaine régularité, avec de la qualité, avec beaucoup d'éléments offensifs, beaucoup de possibilités. Et avec des joueurs qui leur permet de pouvoir faire des différences. Donc c'est sûr que c'est un match très costaud qui nous attend et avec de très bons joueurs et de très bonne qualité.
Coup d'envoi de Saint-Etienne-Monaco ce soir à 21h. Les autres résultats de Ligue 1 cet après-midi. Nice a battu Reims 2-0 avec un carton rouge pendant une mi-temps et demi pour les Rémois. L'autre rencontre de cette 12e journée de Ligue 1, c'était Bordeaux-Nantes. Victoire des Bordelais 2-0 et une remontée à la 6e place. Mais pour le gardien bordelais Benoît Costil, il faut avancer doucement.
On va pas vous dire pour faire plaisir aux gens, on va jouer à la Champions League ou quoi que ce soit alors que c'est difficile à atteindre avec nos moyens. Donc à un moment donné, c'est aussi être lucide. Et on reproche beaucoup aux gens parfois de manquer de lucidité. Ben nous, on est lucide. Donc désolé si on ne vous fait pas rêver. Par contre, on est un groupe qui travaille, qui a envie de réussir, de progresser. Et donc si à un moment donné, on peut se caler dans le bon wagon et être présent et faire parler de nous, ben on ne va pas s'en priver.
La suite du journal des sports, Clément Comte, on prend le large maintenant en Atlantique, direction de l'Atlantique.
Oui, où nous attendent les skippers de la Transat, Jacques Vabre. Le départ, c'était il y a une semaine. Rien ne se décide pour le moment. Le charal de Jérémy Bayou et Christopher Pratt est toujours en tête. Nous, on a pris des nouvelles avec le directeur adjoint de la course, Francis Le Goff.
Chez les IMOCA, donc la bagarre fait rage entre charal, Apivia, Banque Populaire, c'est avec une constante un peu plus importante peut-être pour Charal qui a pris quelques milles d'avance, mais avec ces bateaux qui vont maintenant très très vite, il avait 35 ou 40 milles d'avance au dernier pointage. On parle là que 2 heures, une simple petite casse mécanique pourrait tout remettre en jeu. Voilà, ils ont couvert 40% à peu près du chemin à parcourir. Il leur reste encore un obstacle majeur à passer qui est ce fameux poteau noir qui est en fait un endroit où le vent est très très instable, où il peut y avoir beaucoup de grains, mais aussi peu de vent.
C'est où ça, le poteau noir? C'est au milieu de l'océan Atlantique?
Ouais, c'est ça. Hein, c'est deux grands systèmes qui se rencontrent et qui s'opposent. Très difficile parfois à négocier et à passer.
Voilà pour la Transat Jacques Vabre, arrivé des premiers au Brésil, prévu pour jeudi. Autre course à la voile, elle partira mardi matin. Celle-là, c'est la Brest Atlantique, avec les 4 trimarans les plus rapides de la planète. Rien que ça, des bateaux presque capables de voler. Le parcours Brest à Brest, en passant par Rio au Brésil et le Cap en Afrique du Sud, sur les bateaux de skippers. Ils vont voyager en double, mais ils ne seront pas tout seuls. Avec eux, à chaque fois, des médias semaines chargés de prendre photos et vidéos, Jérôme Val.
C'est une course en double, mais un ménage à trois, avec une règle très claire. Les médiamen, comme on les appelle désormais, ne peuvent pas participer à la marche du bateau ni aux manœuvres. Ronan Gladu embarque sur Actual Leader.
J'ai vraiment rien le droit de faire. J'ai le droit de faire à manger. Je pense que je vais faire beaucoup bouillir de l'eau à bord et faire beaucoup de thé et de café. Pour faire la cuisine à bord de ce genre de bateau, il faut surtout avoir un bon équilibre plus qu'être un bon cordon bleu.
La présence à bord d'un équipier chargé des images, même si elle n'est pas toujours accueillie favorablement par les marins, est une obligation dictée par les organisateurs. Le but, faire vivre la course de l'intérieur pour le grand public. Comme le détaille Martin Kérusoré, il sera aux côtés de Thomas Coville et Jean-Luc Nélias sur ce débat.
Alors mon rôle, c'est de raconter un peu la vie du bord, donc sous forme de photos, vidéos et d'écriture. Peut-être des podcasts aussi, avec le son. Mon rôle, c'est vraiment ça, de raconter des histoires.
Sur cette course, qui devrait durer moins de 30 jours, les 4 médiamen seront soumis à des contraintes fortes. L'exiguïté des lieux, quelques mètres carrés seulement pour vivre, et les conditions de navigation sur ces bateaux très rapides, Ronan Gladu.
C'est vraiment assez atroce hein, comme condition de travail dans le bateau, parce qu'on est dans le noir complet, on a juste une petite ouverture où on voit des embruns qui passent et la mer qui passe, et ça bouge dans tous les sens, ça tape énormément. Sur la durée, il y a vraiment un côté, c'est une machine, une fois qu'elle est lancée, elle s'arrête jamais. Et c'est vraiment très pesant.
Il leur reste maintenant à capter la scène de la course. Martin Kérusoré a déjà sa petite idée.
Là en tête, j'ai envie que le bateau vole avec le soleil sous le trampoline, dans les Alizés, ou dans le Grand Sud avec les Albatros. Ça peut être pas mal ça.
Allez, on termine ce journal avec le marathon, Yves. C'était celui de New York aujourd'hui, remporté par le Kenyan Geoffrey Kamworor. Pour les hommes. La Kenyane Jocelyne Jepskoge pour les femmes. Voilà, deux Kenyans ont donc remporté ce marathon de New York. Mais ce soir, nous, on vous parle du marathon de Tokyo, celui prévu pour les Jeux en 2020. Enfin, Tokyo, justement, pas vraiment Tokyo, parce qu'il va être délocalisé pour éviter aux athlètes les fortes chaleurs de l'été. Ce marathon ne se fera donc pas à Tokyo. C'est une décision du CIO. Et tout cela sans concertation, Frédéric Charles.
La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, est en colère. Sans la consulter, le CIO, le Comité international olympique, a décidé de transférer le marathon, la plus prestigieuse des épreuves, à 800 km de Tokyo, tout au nord, à Sapporo, où l'été est de 6 à 8 degrés moins chaud qu'à Tokyo. Le CIO prend à sa charge le coût de ce transfert. Il est estimé à 280 millions d'euros et il promet de ne délocaliser aucune autre épreuve. Pourtant, des politiciens japonais demandent déjà au CIO de transférer le golf à Sapporo, d'autres l'équitation. La gouverneure de Tokyo se dit choquée par la décision du CIO. La ville a pris de coûteuses mesures pour contenir les effets néfastes des grandes chaleurs. Le CIO ne pouvait pas ignorer, au moment d'allouer les Jeux de 2020 à Tokyo, que l'été y est une fournaise. Et pour remporter les Jeux, les autorités japonaises avaient dit au CIO que la météo de juillet à août est idéale à Tokyo pour permettre aux athlètes d'atteindre leur meilleur niveau. Peut-être, mais en 2018, l'été au Japon a été atroce et 159 personnes sont décédées de coups de chaleur. Tokyo, Frédéric Charles, RFI. Pour France Inter.
Un mot de Formule 1 à suivre ce soir, le Grand Prix des États-Unis. Pierre Gasly, le Français, partira à la 10e place sur la grille. Le Monégasque Charles Leclerc partira, lui, à la 4e place. Romain Grosjean, 15e. La pole position, elle est pour le Finlandais Valtteri Bottas sur Mercedes. Lewis Hamilton, lui, partira à la 5e place. Lewis Hamilton, le Britannique, eh bien, qui peut être champion du monde s'il se débrouille bien et surtout s'il passe devant Valtteri Bottas, son coéquipier. Potentiellement, Yves, il peut être champion du monde tout à l'heure.
Suspense. Merci, c'était le journal des sports de Clément Comte.